With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Louis. Nova.
Quand j'ai commencé à écrire, c'est comme si j'avais acquis un autre acte de naissance. En fait, en écrivant, je refuse le monde dans lequel je suis et je crée un autre. J'envisage un autre monde. Ça n'avait pas juste une fonction de thérapie basique pour moi, mais c'est vraiment une activité de transformer son monde, de transformer le monde à partir de du regard qu'on va poser dessus et la possibilité aussi de créer un nouveau rêve. Et c'est pour ça que je dis que c'est là que j'ai commencé à exister, parce que c'est là que je pouvais enfin parler et dire tout ce que j'avais à dire.
Jean d'Amérique est poète et dramaturge, et à seulement 27 ans, il est devenu l'une des voix prisées pour raconter la situation politique d'Haïti dans les médias, sur les plateaux télé. Il vient de publier son premier roman, Soleil à coudre, et je suis d'abord tombée amoureuse du titre. Un titre ne m'avait pas fait un effet pareil depuis longtemps. Et puis j'ai découvert le texte, poétique, obsédé par la violence et les silences. Il y écrit « Depuis longtemps, des ombres amères me volent les mots, une rivière de silence me traverse. » Et aussi « J'ai des soleils à élever sur les bords de ma route. » Je lui ai demandé comment il avait bâti sa vie sur les mots. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
J'ai grandi en Haïti, dans une petite campagne, dans le sud-est du pays. Ouais, j'ai passé jusqu'à mes 11 ans là-bas. Et après, j'ai migré à Port-au-Prince pour aller au lycée. Parce que, en fait, dans mon village natal, après les études primaires, il n'y avait pas d'école pour continuer. J'ai dû aller à Port-au-Prince. Et c'est aussi la rencontre brutale avec la violence, parce que j'ai tout de suite habité dans des quartiers populaires. Cette ville m'a beaucoup transformé, en fait. Ouais.
Vous arrivez à Port-au-Prince, vous avez 11 ans. Un an plus tôt, il y a eu un coup d'État et il y a une résurgence de la violence à cette époque-là, dans le pays, particulièrement à Port-au-Prince.
Étant enfant, c'est assez difficile d'affronter ça. Et puis, dans les quartiers où je vivais, il y avait une vraie proximité avec ces activités de violence. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai pu vraiment sortir de ça, parce que c'est tout un hasard qui m'a fait rencontrer les mots, la littérature, la poésie. C'est très courant de voir des gens dans mon quartier se faire descendre. Et moi, enfant, adolescent, j'ai vu ça. J'en ai vu plein qui sont tombés comme ça, ou bien dans les conflits entre gangs des quartiers. C'est la terreur, par exemple, quand un autre gang d'un autre quartier débarque dans notre quartier et tire des coups de feu partout, et on doit juste courir et essayer de s'abriter. Donc, pour l'adolescent que j'étais, c'était vraiment terrifiant. Mais aussi, le fait qu'on le vivait assez souvent, ça devenait une sorte de normalité, en fait. Ouais, c'est comme ça. On doit faire avec. Les exemples que j'avais autour de moi, c'était des jeunes avec des flingues. Mes amis d'enfance, d'adolescence, sont maintenant des chefs de gang dans ces quartiers, où je peux plus aller, par exemple. En fait, j'ai perdu les contacts avec eux. C'est pas vraiment que j'ai choisi de ne plus leur parler, mais voilà, le fait que à un certain moment, j'ai quitté ces quartiers où je vivais. Bon, à Port-au-Prince, j'ai beaucoup déménagé pour des raisons différentes, mais j'ai beaucoup déménagé et du coup, j'ai juste perdu le contact avec certaines personnes. Mais c'est pas, genre, j'ai pas un complexe par rapport au fait que j'ai vécu avec ces gens. Pas du tout. Au contraire, genre, si je les recroise, ils vont me reconnaître, je vais les reconnaître et on va se retrouver comme amis d'adolescence, en fait. C'est pas que j'ai un complexe par rapport à ces gens, à ces lieux, parce que c'est là, c'est de là que je viens, en fait. Et en fait, Port-au-Prince, c'est une ville qui est assez sectionnée, qui est assez... en fait, géographiquement, la ville ressemble à sa structure sociale. C'est-à-dire... t'as vraiment les bas-fonds de la ville qui sont tout en bas et à mesure qu'on monte, c'est les quartiers huppés. Et c'est deux mondes complètement différents. Et pour toutes les raisons qu'on habite dans ces quartiers précaires, c'est-à-dire on n'a pas de moyens économiques, on n'a pas de moyens qui nous permettent d'habiter dans des lieux qui sont mieux. Et aussi parce que l'État est totalement absent dans ces quartiers précaires. Donc la population doit elle-même prendre soin d'elle. Du coup, je pense que quand on est dans ces quartiers, en fait, on est responsable de tout, en fait. Il n'y a pas de service public, il n'y a pas de... tout à l'heure, je parlais aussi de rapport avec les mots qui va venir plus tard. Ben, dans ces quartiers, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y a pas de centre culturel. Il n'y a rien, en fait, pour se projeter dans le côté, je dirais, lumineux de la vie. Après, au milieu de tout ce chaos, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a une espèce de solidarité, il y a une espèce de... ouais, une solidarité humaine qui fait que ces gens tiennent.
Et vous vous souvenez du jour où vous découvrez le rap ou alors du jour où vous découvrez un livre qui vous fait vous dire en fait, ça doit être ça mon univers et c'est ça mon choix d'existence?
Je peux pas me souvenir du genre premier morceau de rap que j'ai écouté, mais je me souviens qu'il y avait deux groupes de rap assez mythiques en Haïti. Rock Fam et Barricade Crew. Et ces gens, comme aux États-Unis, East Coast, West Coast. Et c'était genre vraiment la guerre entre ces deux groupes. Et ce battle de mots, de rap, comme ça, ça avait fasciné tous les jeunes. Et en fait, c'était des espèces de modèles, en quelque sorte. C'est-à-dire... des jeunes qui viennent des mêmes lieux que moi, de ces quartiers désolés, et qui, tout à coup, ont une voix dans la société. Donc je me voyais tout de suite à travers eux. Et à Port-au-Prince, il y a des bus ou des camionnettes qui font du transport public. En fait, ils passent du rap. Et du coup, après le lycée, quand je rentrais chez moi, j'attendais forcément un bus qui passait du rap pour sauter là-dedans. Et ouais, c'est ce qui m'a amené à écrire mes premiers textes que je partageais avec des copains au lycée. On était dans cette ambiance-là. Et les livres, ça va être en fait des professeurs de lettres qui ont vu ce que je produisais dans leurs cours et qui m'ont amené vers des livres en dehors de l'école. Et pour le coup, là, il y avait... il y avait genre une petite bibliothèque à côté du lycée. Et j'y allais après l'école pour puiser. Et là, les premiers auteurs que j'ai rencontrés, je pense à Franck Etienne, c'est un auteur haïtien qui fait vraiment exploser la langue. Il est vraiment en transgression dans la langue. Et ça m'avait beaucoup touché. Et puis aussi, j'avais lu son premier roman à l'époque qui s'appelle « Mur à crever ». Et c'est un personnage qui se débat en fait avec lui-même, avec son double aussi. Et c'est une espèce de métaphore d'une parole contre l'impérialisme en Haïti. Ouais, ça avait tout de suite des résonances chez moi. Et sa façon d'écrire aussi, d'être en transgression avec la langue classique, m'avait beaucoup remué. Donc je peux dire, c'était l'un de mes premiers coups de cœur littéraires. Après, j'ai découvert plein d'autres auteurs. Jacques-Stéphane Alexis, Aimé Césaire, Mahmoud Darwish, Toni Morrison. Il y en a plein.
Et du coup, cette découverte de la littérature au sens très large, du rap au roman, on va dire, ça se fait très tôt dans votre vie. Du coup, vous décidez dès le lycée que vous allez vous consacrer à la littérature ?
Non, c'était pas encore sérieux quand j'étais au lycée. C'est-à-dire, c'était juste, j'avais trouvé un lieu où ça me plaisait d'être. Je lisais beaucoup, j'essayais d'écrire, mais j'avais pas vraiment une conscience du fait que je voulais devenir écrivain tout de suite. Mais je pense aussi que c'est parce que la société dans laquelle je vivais, l'environnement familial aussi, ne me permettait pas de me projeter comme écrivain, en fait. On me vendait d'autres métiers. Donc, on voulait que je sois médecin ou avocat. Surtout, je vivais à un moment avec un oncle qui était avocat et qui avait beaucoup d'emprise sur moi. Donc, j'ai l'impression qu'il ne m'était pas permis de me rêver écrivain, mais je nourrissais cette passion, en fait, de juste écrire pour moi, pour mes amis au lycée. Et je vais avoir beaucoup plus de conscience de ça, c'est quand je commence à me présenter dans des soirées à Port-au-Prince pour dire mes textes, les partager avec un public et ressentir ce que ça peut provoquer chez les autres comme émotion, comme partage d'énergie. Et voilà, j'ai continué dans cette voie jusqu'à publier en 2015 mon premier recueil. Ouais, et là, je me suis dit, c'est parti. Et surtout, j'ai eu une entrée assez particulière dans la littérature comme ça, parce que ce premier livre, il avait eu la mention spéciale d'un prix de poésie en Haïti, qui est assez important. Donc, j'étais tout de suite bien lancé. Et cette passion est devenue un vrai métier. Et puis depuis, c'est ma vie, en fait. Je ne peux plus concevoir ma vie sans l'écriture, en fait.
Et comment vous avez décidé de quitter Haïti ?
Je n'ai pas quitté Haïti. J'habite plus là-bas. Il y a des choses dans ma vie qui m'amènent sur d'autres chemins qui sont en dehors d'Haïti. Ok, j'essaie d'expliquer. En fait, le fait que la littérature c'est devenu mon métier, c'est ce qui m'a amené à voyager en Europe. Le fait d'être ici me permet de répondre à mes activités artistiques, aux sollicitations que j'ai ici. D'ailleurs, au début, je faisais des allers-retours, beaucoup d'allers-retours entre Port-au-Prince et la France, Belgique. Et 14 heures d'avion, j'avoue que c'est... Voilà, le faire tout le temps, c'est pas très cool. Mais en fait, je peux dire que j'habite plus en Haïti, mais je l'ai pas quitté parce que je porte ce pays dans ma chair, dans mon imaginaire, et elle transpire dans tout ce que j'écris. Mais aussi, de manière pratique, je continue à mener des projets là-bas, qui sont assez importants pour moi, comme un festival que j'ai monté avec des amis il y a 2 ans, Transpoétique, festival de poésie sous toutes ses formes. Et aussi, je collabore avec, depuis quelques années avec un collectif qui s'appelle Neges Mahon, qui organise un festival féministe qui s'appelle Neges Mahon. Donc voilà, c'est des projets là-bas qui sont assez importants pour moi, auxquels je continue de collaborer, même si je suis à distance. Et normalement, je dois aller en Haïti chaque année pour Transpoétique qui se passe en septembre.
Et du coup, aujourd'hui, vous êtes aussi, bien que très jeune, une des voix invitées dans les médias pour parler de la situation politique en Haïti, qui est à la fois complexe et violente. Vous dites souvent dans les médias qu'il y a une gangstérisation de l'État. Je pense que c'est un bon résumé de ce qui se passe depuis quelques années en Haïti. Comment vous percevez la force de cette parole poétique pour parler du politique ?
Dans Soleil à coude ou dans d'autres textes que j'ai écrits, il y a toujours cette grande métaphore qui revient où je dresse la parole poétique contre les systèmes de répression ou de violence. C'est-à-dire, je crois que la poésie peut briser les murs, peut casser les barreaux, peut faire exploser les chaînes. On le voit à travers Tête Fêlée, c'est un personnage qui existe par la parole. Elle existe parce qu'elle raconte sa vie, elle raconte la vie des gens autour d'elle. De son pays, de son quartier. En fait, c'est sa voix qui l'a fait exister. Il n'y a pas vraiment de description physique, mais c'est des personnages qui se dessinent dans la parole, qui se dessinent à travers des mots. Par exemple, le personnage de Silence, bon, comme son nom l'indique, elle ne parle pas du tout. Après, c'est lié à plein de choses, à la fois parce qu'elle vit dans une famille assez conservatrice, un père assez autoritaire, et elle vient aussi d'un milieu plutôt de classe sociale aisée, et son père ne veut pas qu'elle ait des contacts avec des enfants des bas quartiers, etc. Donc elle est, au final, elle n'est pas autorisée à parler. Et en fait, on voit ce personnage se dessiner à travers les lettres de Tête Fêlée, à travers les mots de Tête Fêlée et l'idée de cet amour qu'elle nourrit pour elle. Et puis, ou bien on peut retrouver le reflet de ce silence chez Fleur d'Orange, qui est la mère de Tête Fêlée, qui, elle, pareil, ne parle pas beaucoup. Pour le coup, là, c'est parce qu'elle est sous l'emprise d'un tas de choses. Elle rencontre beaucoup de difficultés dans son métier de prostituée et d'un autre côté, dans l'espace conjugal. Elle subit vraiment le système patriarcal dans sa totalité à travers l'image de papa, qui est son mari. Et en fait, Tête Fêlée, elle raconte tout ça, et elle laisse couler son chant, elle laisse exploser ses mots, et c'est ce qui la tient en vie. Et pour moi, tout le roman et toute mon œuvre même, c'est toujours cette métaphore de la parole, la puissance du verbe, la puissance des mots face à la répression sous toutes ses formes. La face qu'on montre souvent d'Haïti, c'est-à-dire ce chaos politique et cette immense violence qui existe, c'est le visage de l'État haïtien, mais pas du peuple haïtien. Et moi, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de donner à voir cette situation, mais en essayant de la transformer aussi, ou bien de proposer des moyens de transformation. J'essaie de l'aborder de manière poétique, mais en gardant une conscience politique vive, parce que je crois que le fait d'être écrivain ne me dissocie pas du fait d'être un citoyen, et donc qu'il y a une conscience politique qui est liée à ces réalités que je connais. Et quand je vois ce peuple haïtien vivre dans ces conditions-là, en danger tout le temps, pour moi, c'est assez évident de porter cette parole pour la faire entendre au-delà des murs du quartier où ça se passe, au-delà du pays. Et je pense que la parole de l'écrivain, du poète, est importante dans l'espace public. Et comme j'ai accès à ça, je sens que je ne peux pas juste écrire pour écrire. Pour moi, écrire, c'est un acte politique déjà en soi. Le fait qu'on prend la parole et qu'on va cibler des esprits, en fait. Et donc, si j'ai la possibilité d'utiliser cet outil, il faut que je le fasse pour quelque chose qui vaut la peine. Et cette chose qui vaut la peine, pour moi, c'est faire entendre la voix de mon peuple, faire entendre la voix des bas-fonds, la voix de la marge, raconter ces lieux brisés d'où je viens et essayer d'appeler la lumière.
D'Amérique publie Soleil à coudre chez Actes Sud. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club louismedia.com/club. À très vite.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.